Cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Chaudard, le 26 mai 1993.
Ici, vous avez pris votre petit déjeuner avant la métaphysique. Je crois que ce sera beaucoup moins lumineux. Alors, on va continuer. Comprendre tout ce qui est impliqué dans le « je suis » pour découvrir ce qu'est la personne humaine en présupposant toute l'analyse philosophique antérieure, le « pose », le « comment » de notre existence, de l'exister, l'expérience la plus forte que nous pouvons avoir comme expérience immédiate. C'est ça qui peut être très important à toujours se rappeler. Expérience, d'abord, nous l'avons vu, de notre autonomie, limitée, c'est sûr, mais de ce qu'il y a de substantiel en nous, de fondamental et d'unique. Notre soif de vérité, notre soif d'aimer, ensuite nous avons essayé de comprendre la manière dont nous pouvions dominer nos diverses activités, cette sagesse pratique qu'on appelle la prudence. La phronesis, la prudence qui nous permet, en connaissant le capital de vie que nous avons, nous orienter à bon escient, le choix des moyens les plus efficaces, le choix de l'orientation d'une vie. Chercher la vérité, le choix d'amis. Il y aura ensuite, mais comme on est au point de vue philosophique, avant la découverte philosophique de l'être absolu que les traditions religieuses appellent Dieu, je vous avais dit, il y a un problème très important au point de vue prudence que nous devons nous-mêmes essayer de comprendre pour pouvoir le communiquer à ceux que nous rencontrerons et qui n'ont pas encore découvert Dieu ou le Christ. Quel est le poids des traditions religieuses dans un choix prudentiel? Et remplacer le pari de Pascal par cela. Parce que le pari de Pascal, c'est très bien, mais c'est un pari. C'est donc pas un acte prudentiel au sens absolu. Bien que le pari de Pascal dépende d'un choix prudentiel, il le veut comme ça, mais je crois qu'il faut, de notre monde d'aujourd'hui, comprendre ce que représente le témoignage d'une humanité qui a 2000 ans d'existence, le témoignage d'une humanité qui a 4000 ans d'existence. C'est quand même un poids humain, on peut dire tout ce qu'on veut, même si on découvre que notre siècle est le seul siècle qui est intelligent, comme ceux qui disent que Vatican II est le seul concile intelligent, ou l'Église, vraiment, ça va ensemble, et c'est les mêmes gens qui disent ça. Ça fait partie d'une mentalité assez particulière, où il manque de racines. C'est vrai, les gens qui sont très enracinés ne disent jamais ça, quoi. C'est pas le siècle 20. siècle qui est le siècle le plus humain de tous les siècles. Je ne crois pas. Je crois que c'est un siècle très particulier. Et le choix qui s'est imposé est un choix qui a été très curieux. Très curieux. Dans mon point de vue religieux, au point de vue humain, c'est intéressant, avec un peu de recul. Comment se fait-il qu'on en est là? Il faut quand même essayer de comprendre ça. Ça fait partie de notre « je suis hein. ». Puisque dans ce monde d'aujourd'hui, je dois opter. Je dois choisir. Et voyez, dans l'ordre de la prudence, le point de vue historique joue un rôle important. Et je crois que c'est important de bien saisir cette place du point de vue historique en face de la philosophie de l'histoire. La philosophie de l'histoire, c'est Hegel. Alors on doit comprendre l'erreur hegelienne. Ramener l'être au devenir fait qu'il y a une philosophie de l'histoire. Distinguer le devenir et l'être fait qu'il y a une sagesse métaphysique et que l'histoire, au sens strict, n'est pas une sagesse. Elle aide notre prudence. Pas la même chose. Elle n'est même pas notre prudence. Autrement, on plaiderait le point de vue des moutons de Panurge et le suffrage universel. C'est souvent le suffrage universel qui domine. Or, on peut discuter là-dessus. Vous voyez, il y a toute cette dimension des traditions religieuses qu'il faut bien situer, qu'on ne doit pas mépriser et qu'on ne doit pas non plus ériger en sagesse. Les traditions religieuses représentent quelque chose d'important, bien évident. Quand, de fait, nous sommes incapables par nous-mêmes d'évaluer le poids, la signification des opinions religieuses, du symbolisme religieux, des mythes religieux. Il y a là, j'allais dire, une critique d'ordre pratique qui fait partie de la prudence et qui est importante pour nous vis-à-vis de ce problème si capital. Savoir s'il existe un créateur, s'il existe un être plus grand que nous, dont nous sommes dépendants, un être qui est notre source de notre être, de notre vie. Donc, j'insiste, parce que j'ai été rapidement là-dessus, je reviens exprès dessus, parce que c'est important pour nous. Et ça va avec ce que nous trouvons aujourd'hui, le point de vue du poids du témoignage. Ce serait intéressant de voir le lien entre le témoignage et le point de vue historique des traditions religieuses. Qu'est-ce que ça représente exactement? Pour notre prudence, pas pour notre métaphysique. Notre métaphysique est au-dessus de cela. Elle émerge. Mais pour notre prudence, l'histoire, les expériences des hommes font partie de notre prudence. C'est souverainement imprudent de ne pas tenir compte des traditions religieuses. On doit pouvoir dire ça à un homme qui vit de la science, un positiviste. C'est peut-être le pied sous lequel on peut l'attaquer de la manière la plus directe. Oui, parce que si vous l'attaquez par le point de vue de la métaphysique, il ne comprend rien. On met très longtemps à avoir la valeur de la métaphysique. Tous ceux qui sont plus ou moins, vous voyez, abîmés par le positivisme, et on l'est tous, on met du temps qu'est-ce qui, pour nous, est l'antidote le plus fort par rapport au positivisme? C'est les traditions religieuses. C'est le patrimoine humain. Dans ce patrimoine humain apparaît l'art, la poésie, la sculpture, l'architecture, le Corbusier. Puisque vous avez encore dans vos yeux le Corbusier. Ce que représente une église romane et le Corbusier. Le fruit de notre culture du XXe siècle. Typique. J'ai beaucoup étudié le Corbusier. Je crois que j'ai tout lu de ce que le Corbusier avait écrit. Ce qui m'a beaucoup intéressé. J'ai jamais été ce que vous avez vu, mais j'ai vu pas mal de choses de le Corbusier. Et c'est atypique. L'architecture est toujours très, très, très parlante pour la culture humaine, l'urbanisme et l'architecture, mais encore plus l'architecture. L'urbanisme est un art second, plus politique. Vous voyez, je crois qu'on pourrait dire un peu, vous voyez, l'urbanisme est à la sculpture ou à l'architecture, ce que le cinéma est à la peinture, et c'est un peu ça, vous voyez, ou ce que le roman est à la poésie. Le roman est un art mineur. Tous les poètes le disent. Il n'y a que les romanciers qui disent l'inverse. Parce qu'on est enfermé dans le roman. C'est évident. Tandis que la poésie a une qualité unique comparativement au roman. Et la peinture, la sculpture est quelque chose d'unique comparativement au cinéma. C'est très curieux, ces arts mineurs qui sont nés dans notre siècle. On est le siècle des arts mineurs. Et c'est pas étonnant, parce que c'est la science, les mathématiques et les sciences qui ont dominé. Dans les mathématiques et les sciences sont quantitatives. Et les arts mineurs, c'est les sensibles communs. Les arts mineurs, c'est les arts des sensibles communs. Tandis que les arts, proprement dit, c'est les sensibles propres. Alors là, vous avez ce qui est très net. Une fois qu'on a cette petite clé, j'avais fait à Fribourg un séminaire sur le cinéma, dans le cours de philosophie là, pour essayer de voir comment le cinéma est un art mineur, et que c'est l'art des sensibles communs. Voilà. C'est la clé. Sensible propre, sensible commun. Parce que les sensibles communs, c'est l'imaginaire. L'imagination a un rôle capital dans les arts mineurs. Tandis que dans les arts propres, c'est l'intelligence liée au sensible propre. Une qualité unique. Il faut y réfléchir, même si vous n'êtes pas d'accord, réfléchissez là-dessus. Alors il y a un patrimoine artistique. L'art fait partie essentielle de la personne humaine. On ne peut pas nier ça. Et c'est important de saisir la place exacte de l'art par rapport à la personne humaine, par rapport au développement de la personne humaine. C'est sûr que la personne humaine n'est pas structurée par l'art. Mais la personne humaine se manifeste par l'art. Alors là, extraordinairement, alors quand l'apparence remplace la réalité, l'art devient seigneur. Oui, c'est sûr. Alors, dans l'art, mettez l'art religieux. L'art religieux est témoin des traditions religieuses. Et ça, personne ne peut nier. qui est l'art religieux. Et dans l'art religieux, même l'art chrétien. C'est un sommet. Oui. Alors, comprendre ce que c'est que l'art sacré, l'art religieux et l'art chrétien. Et puis, la technique. La technique n'est pas de l'art. Oui, quand on prend une architecture uniquement fonctionnelle, très vite, l'art se dégrade. Et la fonction l'emporte. On a tous contemplé longuement la basilique de Sainte Bernadette à Lourdes pour voir que quand l'aspect fonctionnel l'emporte dans une église, le point de vue religieux était assez bas. Parce que la fonction n'est pas religieuse. Vous voyez, quand l'attitude religieuse devient fonctionnaire, le religieux en prend un gros coup. La crosse sert à donner des coups. Mais elle n'est plus le signe de la dignité. C'est le pouvoir qui l'emporte sur l'autorité. C'est très intéressant de voir dans l'art ces niveaux différents. L'aspect fonctionnaire, c'est l'aspect utile. C'est l'efficacité. Ce n'est plus de l'art. Alors on tombe dans l'économie. Alors je crois que si on veut comprendre par rapport à la personne humaine ce qu'est l'activité de la réalisation, il faut commencer par le sommet, puis descendre progressivement au sous-sol. Que le sous-sol soit fonctionnel. L'art ancien faisait que le sous-sol était fonctionnel. Là, on n'hésitait pas de mettre les gros tuyaux en lumière et en pleine expansion. Envoyer les chaudières. C'est beau, une chaudière. C'est utile. La beauté est secondaire. N'est-ce pas ? La plus belle des chaudières. Dernier cri de la chaudière. On demande que ce soit utile. Avant tout. C'est-à-dire que ça consomme moins et qu'on soit moins obligé de la surveiller tous les instants. Qu'il n'y ait pas un fonctionnaire qui soit là obligé d'être là tout le temps pour voir s'il y a quelque chose qui s'éclaire tout d'un coup. On dit, ah, un danger. Ça doit marcher tout seul. Et les gros tuyaux, c'est pas gênant. C'est beau même, des gros tuyaux. Et quand on voit le sous-sol qui s'empare de tout, on se dit, où est-ce qu'on est ? Et alors, il faut regarder au sommet de toute culture. Vous voyez, alors la question, c'est très curieux, c'est intéressant du reste de voir que lorsqu'il s'agit de l'art, le point de vue de la valeur intervient. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de valeur. Donc c'est important quand même de voir où ça se situe par rapport à notre point de vue humain. Bien, je crois que la valeur se situe au niveau artistique. On peut hiérarchiser le patrimoine humain en fonction des valeurs. L'art chrétien manifeste la valeur suprême à travers l'art. Et la valeur suprême, c'est l'attitude religieuse, l'attitude chrétienne. La plus grande des valeurs, c'est la liturgie chrétienne. C'est l'adoration et une grande messe, une eucharistie pontificale. C'est pour ça que l'abbé a une crosse. C'est pour que la liturgie de l'abbé soit pontificale. Et atteigne un sommet. Il faut entendre les bénédictins. C'est ici leur rôle. parler de la liturgie pontificale quand l'abbé préside. Quand l'abbé ne préside pas, c'est mineur. C'est la liturgie de la Sainte Dea. Vous savez, Dea. Ce qu'on disait avant, tu vois. C'est qu'il y a pas de, quand il n'y a pas de saint, c'est Dea. Alors à ce moment-là, l'abbé se repose. Tandis que quand il y a un saint, il y a la liturgie pontificale. Et c'est toujours très beau. Mais la beauté à l'intérieur du patrimoine artistique, religieux, chrétien, apparaît dans toute sa force. Je crois que la valeur ne peut pas quitter la beauté. Elle est liée à la cause exemplaire. Beaucoup étudié la question de la valeur dans les philosophies modernes. Comment naît cette philosophie des valeurs? Elle naît à partir de la philosophie finale, à partir du manque de finalité. Alors la causalité exemplaire prend la place. Quand la finalité existe, personne humaine réclame la finalité, la recherche de la vérité, la recherche de l'amour. On situe mieux le patrimoine humain. Le patrimoine humain n'est pas une finalité. Quand le patrimoine humain devient une finalité, on tombe dans le traditionnalisme. Les traditionnalistes, ce sont ceux qui font du patrimoine religieux une finalité. Ils font du conservare une finalité. Il faut garder le patrimoine. On n'a pas le droit de lapider. Vendre aux enchères des calices, c'est une diffamation par rapport au patrimoine religieux. Vendre aux enchères des habits religieux, c'est la même chose. Mais considérer le point de vue de la tradition religieuse comme un absolu, comme une finalité, comme une mesure, c'est du traditionnalisme. Le patrimoine religieux demande d'être gardé comme un patrimoine humain et religieux. C'est-à-dire, en même temps, il ne peut se garder qu'en étant vivant. Et donc, chaque fois, des pousses nouvelles. Congrégation Saint-Jean, pousse nouvelle. Vous avez aussi Emmanuel, pousse nouvelle. Vous avez les béatitudes, pousse nouvelle. Vous voyez ? Alors, il y a des moments, après les grandes pluies et les grosses chaleurs, vous avez tout qui pousse comme des serres surchauffées. Et dans les forêts, il y a beaucoup de champignons. Non. Alors, il faut faire le discernement entre les bons champignons et les mauvais champignons. Et ça, ça fait partie du discernement dans le bâti du patrimoine. Vous voyez, la valeur comme telle n'est pas toujours bonne. Il y a des valeurs qui sont vraiment des valeurs. Puis il y a des valeurs qui sont éphémères, qui ne dureront pas. En tant que possible, il vaut mieux choisir les valeurs bien enracinées. Les bons champignons. Oui. C'est très très intéressant, il y a tout un aspect qui pour nous, il faut avoir un chantier de ça. Dès le noviciat, il y a un chantier sur tradition religieuse, valeur religieuse, valeur chrétienne, valeur religieuse proprement dite. Il faut un chantier aujourd'hui. C'est indispensable. Parce qu'on vit là-dedans. Alors, autant que possible, il faut avoir un peu de lucidité. Autrement, on n'a pas de lucidité et on fait la planche pour n'importe quel petit torrent. Et on se laisse bercer sans voir si tient ou ça tient pas. Il faut discerner. Dans les traditions religieuses, qui sont le vrai tradition religieuse et le vrai patrimoine, surtout les traditions chrétiennes, il y a une doctrine. La doctrine n'est pas le patrimoine, elle est plus, elle est la recherche de la vérité. Je peux ramener la doctrine au patrimoine, ce qui est très mauvais. Mais pour beaucoup, hélas, la doctrine est un patrimoine. On récite le credo. On ne vit pas. La recherche de la vérité n'est pas un patrimoine. La recherche de la vérité, bien plus, c'est ce qu'il y a de vital en nous et qui permet qu'on ne tombe pas dans le traditionnalisme. Qu'on comprenne que garder, c'est pour permettre toutes les nouvelles éclosions. Les vraies éclosions vitales se font à partir de la doctrine et non pas à partir des émotions et des sentiments qui sont de la sensibilité. C'est toujours très intéressant de voir à partir de quel moment il y a éclosion de quelque chose de nouveau. Vous voyez, un livre comme les Nouvelles Communautés pourrait être vu sous un point de vue théologique et sous un point de vue critique, philosophique, religieux. Ce ne serait pas éditable. Donc il ne faudrait pas le mettre chez Vaillard. À l'intra. C'est très intéressant, ça. Et c'est ce qu'on doit faire. Hein. Non seulement pour nous, mais pour ceux auxquels on conseillera. Combien de personnes viennent vous demander, mon père, dans quel courant dois-je me mettre? J'aime beaucoup la communauté Saint-Jean, mais je n'ai pas fait pour ça. Où est-ce que je dois aller? Et vous devrez donner un conseil vrai. Et en donnant un conseil, vous êtes responsable du choix. N'oubliez jamais ça. Vous pouvez dire, ah, je n'ai donné qu'un conseil. Ah oui, vous avez donné un conseil. Et comme vous êtes une grosse autorité, étant donné que vous êtes de Saint-Jean, vous êtes une grosse autorité. Donc, vous devez faire grande attention. Le théologien doit faire grande attention, parce qu'il pèse dans la balance. Le philosophe doit faire grande attention. Et donc, on n'a pas le droit de ne pas le faire. J'ai vu un évêque qui m'a fait cet aveu. Je ne le nomme pas. Il a voulu me voir seul. Il avait son vicaire général qui était là. J'ai dit, pour y attendre d'à côté, je veux voir le père Philippe seul. Il m'a dit, c'est vacances, j'avais un mois. J'avais jamais fait la visite personnelle des nouvelles communautés. J'avais lu simplement ce qu'on écrit dessus et j'ai voulu voir personnellement ce que c'était. La seule communauté nouvelle que je n'ai pas vue, c'est la communauté Saint-Jean. Exprès. Mais j'ai fait la visite de toutes les nouvelles communautés parce que je me suis posé la question, loyalement en face du Christ, nous évêques, ça date déjà de quelques années, hein, nous évêques, au fond, nous avons un peu de mépris pour ces nouvelles communautés. Elles n'ont pas un poids traditionnel, c'est jeune, c'est le fondateur. Est-ce que ça vivra? Alors on a un peu de mépris. On attend l'épreuve. C'est du raisonnement de beaucoup d'évêques. J'ai entendu plusieurs. Faites vos preuves. Dans une famille, un tout petit enfant qui naît, on ne dit pas hein, « tu feras tes épreuves hein. ». Tu tomberas 50 fois, et si tu te ramasses, chaque fois, je serai là pour t'aider. Non, on doit aider. On doit aider. On n'a pas le droit de dire, je suis spectateur. faisons partie d'une même famille. Nous sommes tous du Christ et de la Vierge Marie. Et nous aimons le Saint-Père. Alors on doit s'aider. Vous voyez, c'est très intéressant ces choses-là. Il faut les vivre, parce qu'on vit une période où tout ça émerge. Dans cet évêque m'a dit, j'étais parmi ces évêques. Puis je me suis dit, c'est pas bien. Si l'Esprit Saint souffle à travers ces communautés nouvelles, nous, évêques, nous avons la charge de discerner en face de Dieu ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique. Et nous n'avons pas le droit de laisser ça comme des mauvaises herbes. Alors, on va attendre. On va voir ce que ça va pousser. C'est tout être très beau. Et aussi, j'ai voulu consacrer toutes mes vacances à ça. Et je me suis dit, il y a là quelque chose d'authentique. Alors, je passe, parce qu'il a interrogé toutes ces communautés nouvelles par rapport à Saint-Jean. Parce qu'il est très intrigué, Saint-Jean. Il m'a dit, parce que je le connaissais, moi. Il m'a dit, les premières fois que je vous ai vu, je vous connaissais, comme vous étiez professeur à Fribourg, évidemment, professeur à Fribourg, c'est très bien. Vous aviez des galons, mais comme il y a des Saint-Jean, est-ce que c'était Fred, à votre âge, commencer une communauté. Bah, c'était à voir. Sauf que les communautés d'agents, je regardais de loin. Là, j'ai interrogé. Ça m'a beaucoup étonné que toutes ces communautés nouvelles respectaient Saint-Jean. Disaient du bien. Parlaient de vous. Sans critique. Oui, on est tous des communautés jeunes, pas étonnant que tant d'en fait des bêtises. Mais il faut bien, on se forme comme ça. Alors maintenant, je viens vous demander si vous pouvez venir dans mon diocèse. Je dis maintenant, Monseigneur, il faut venir nous voir, puisque vous avez. Oui, j'ai trouvé ça très bon. Et il le réalise de l'expérience. Restez ouvert à des choses nouvelles. Et on doit toujours rester ouvert à des choses nouvelles. Puisque, de fait, le point de vue des traditions implique le conservare et le rénovare. C'est ce que dit saint Thomas. Alors, le conservare peut se regarder où ? Dans le conservare. Est-ce que ça ne pourrit pas ? Est-ce que c'est gardé dans un frigidaire pour que ce soit mieux gardé et que ça ne pourrisse pas ? Ou est-ce que c'est gardé en plein vent avec tout ce que ça peut représenter ? Alors il y a du rénovare. Dans le frigidaire, il n'y a jamais de rénovare. Il y a des frigidaires dans l'église. C'est évident. Et il y a des serres surchauffées. Il y a les deux. Et puis, il y a le conservare et le rénovare. Oui, tradition religieuse donnée par l'art, donnée par l'enseignement. L'école Saint-Jean est visible. Ça fait partie du patrimoine. Est-ce que c'est valable ou est-ce que c'est pas valable ? Je prends valable exprès, comme valeur communautaire. Sans école de sagesse et d'art, est-ce que c'est valable ? Bethléem, est-ce que c'est valable ? Les béatitudes, est-ce que c'est valable ? On doit avoir un regard intelligent et d'église. Mais on doit le faire. Et comprendre, conservare, rénovare. Et puis dans conservare, ça. côté de Solène, les satellites. Est-ce qu'il y en a ? Regardez, ceux qui, pendant un certain temps, avaient regardé Monsieur Lefebvre, ils sont venus à l'église. On n'a pas le droit de les bouder. Et si la Providence vous permet de les voir dans un parcours apostolique, on y va. Il faut l'expérience propre. Et ainsi de suite, vous voyez. Et au point de vue artistique aussi. On doit essayer de comprendre ce qui est authentiquement chrétien, ce qui ne l'est pas. Vous voyez, c'est très très important pour notre personnalité, nous formons notre personne. Se former auprès d'un frigidaire, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Alors à ce moment-là, vous devenez frigidaire et vous n'êtes pas d'église, parce que l'église n'est pas un frigidaire. L'église, elle, chaque année, il y a le feu du Saint-Esprit quand même. Alors... Le feu du Saint-Esprit est là, et puis au début du pacte, il y a un nouveau feu. Et cependant, l'Église n'est pas révolutionnaire. Oui, c'est important pour nous. Ne pas discerner trop vite quand on est jeune. Attention, attention. Parce que il y a ce qui est connaturel à nous. On peut être né révolutionnaire. On avait un grand-oncle qui était Savonarole. Alors on peut être des révolutionnaires. On a des gènes révolutionnaires. Faisons attention. Au contraire, on a des gènes extrêmement conservateurs. Oh là 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 là. On le sait bien. On remonte. Plus royaliste que le roi. C'est vrai. On a ça. C'est pas méprisable. Mais faisons attention de ne pas être frigidaire. Frigidaire révolutionnaire et frigidaire conservateur. Parce qu'il y a quelquefois rien de plus conservateur qu'un révolutionnaire qui arrive au pouvoir. Vous voyez, ce qu'on dit en riant, hein, que l'Église est plutôt conservatrice. Et les révolutionnaires dans l'Église deviennent à partir de 55 ans, 60 ans, les pires conservateurs. Ils conservent 68. C'est les pires conservateurs. La jeunesse a poussé, les pas ça du tout. Et au reste, est-ce qu'on peut être conservateur du révolutionnaire? C'est intéressant. Ou est-ce qu'il faut être équilien pour ça? Ah! Alors on essaie de comprendre ça, vous voyez. Il y a tout un domaine, je le fais exprès ici, parce que c'est un domaine très important pour nous, vous voyez. On touche là, la philosophie doit descendre jusque dans ses jugements prudentiels. Et pas la psychologie, mais la philosophie. C'est pas la psychologie qui juge l'art, non. C'est la philosophie. Ordinairement, les tempéraments artistiques n'aime pas tellement la psychologie. C'est curieux. Parce qu'ils sont des artistes. Et que la psychologie est assez proche. Mais elle regarde les résultats. Le conditionnement. L'artiste, le véritable artiste, ne se tape pas le pouls tous les matins. Il est attelé à son œuvre. Et c'est son œuvre qui l'intéresse. Et l'œuvre dépasse le point de vue psychologique. Est anti-destin. Malraux. Et c'est juste, il est anti-destin. C'est très beau. Toute la psychologie est destin. C'est la Moïra. L'ancienne Moïra. Mais avec un habit nouveau. Toilette nouvelle. Mais c'est la Moïra. Vous voyez les pentes nécessaires vers lesquelles on est tous. Plus ou moins acculé. L'artiste dépasse la Moïra. L'homme personnel dépasse la Moïra. Il ne se laisse pas glisser, descendre le fleuve. À côté côté de l'art chrétien, il y a l'art religieux. Alors faites le même discernement. Je le fais au sommet. Puis l'art sacré. Tout ça fait partie du patrimoine. Ça, oui. Et on doit aimer ça. Alors voyez, ne tombons pas, ne confondons pas le musée et le patrimoine. Malraux a des choses très intéressantes sur le musée. C'est récent les musées, hein, c'est pas vieux. Je sais plus quelle date Malraux donne, mais ça n'a pas d'importance. Mais c'est intéressant de voir à quel moment les musées ont apparu. Qu'est-ce que ça représente le musée, hein? Par rapport, voyez, c'est le lieu des valeurs, le musée. Être gardien d'un musée, directeur d'un musée, c'est un métier, ça. Et un fameux métier. Et très intéressant. Être là pour discerner les vraies valeurs. Point de vue artistique. Les faux qui n'ont qu'un temps et ceux qui dureront. Alors vous êtes un bon directeur de musée. Vous faites quelque chose de bien. Voyez le patrimoine. Je prends la peinture, prenez la sculpture, prenez la poésie. C'est, tout ça fait partie évidemment des musées. De poésie, c'est plus rare. Bon, c'est plutôt la peinture et la sculpture. L'architecture, c'est pas la peine, parce que c'est elle qui fait les musées. Alors c'est. Mais et elle prend les valeurs aux gens. Puis alors vous avez l'économie. L'économie représente le point de vue utile. Alors c'est très intéressant de voir l'évolution de l'économie. J'allais dire que c'est encore plus intéressant de voir l'évolution de l'économie que de voir l'économie elle-même. C'est curieux. L'évolution de l'économie est plus humaine que l'économie. Parce que vous êtes obligé de regarder le facteur humain de l'utile qui a changé. Et vous arrivez alors à la dernière perspective, le point de vue politique. Quand je dis dernière, c'est pas la dernière au point de vue importance, mais c'est celle qui implique le point de vue des réalisations artistiques qui impliquent le patrimoine, qui impliquent l'économie et qui veut harmoniser tout cela. C'est l'homme politique. Et ajouter la technique défensive qui a pris un développement monstrueux. Le budget défensif d'un pays. Et la réflexion merveilleuse du pape dans sa première encyclique qui est d'ordre politique, mais de politique chrétienne. C'est beau. Et je crois que c'est très important, cette réflexion. Le Saint-Père dit, la culture humaine, depuis ses origines, est arrivée à faire que notre petite terre est habitable. Les animaux dangereux évitent les villes, les lieux où habite l'homme. Et l'homme est arrivé à dominer les animaux les plus dangereux. L'homme a créé des armes extraordinairement dangereuses, plus dangereuses que n'importe quel animal. Il n'y a jamais eu des animaux aussi dangereux que nos armes. C'est vrai. Il ne dit pas ça tout à fait. Hein. Je brode philosophiquement. Mais c'est ça son idée. L'homme arrivera-t-il à dépasser et à modérer cette course à l'armement comme il est arrivé à dominer les animaux dangereux? Alors vous croyez, vous voyez, qu'il n'y arrivera pas. Ça ne perd rien. Pourquoi? Parce que ces armes sont le fruit de son intelligence. Et met là son honneur et sa gloire. Tandis que l'homme n'a jamais mis l'honneur et la gloire d'avoir un éléphant qui vient régulièrement dans son jardin, ou un hippopotame qui vient régulièrement dans son jardin, ou des singes méchants qui viennent régulièrement dans son jardin. Je pense aux carmélites de ces bicotanes. Les singes ont remarqué le moment où les sœurs étaient au cœur. Et pendant que les sœurs sont au cœur, les singes viennent dans le potager. Et prennent tout. Et dès que la cloche sonne, à la fin, l'Angélus, chut, l'homme est arrivé, vous voyez, à dominer les animaux dangereux. Arrivera-t-il à dominer ces armes si dangereuses? Voyez alors, le point de vue politique, c'est de permettre un climat qui permet de bien vivre. Alors, il y a une sagesse politique, c'est-à-dire il y a une prudence politique, qui est une petite sagesse, et qui est une grande sagesse d'un autre côté. Et c'est la prudence politique. C'est l'homme qui arrive à harmoniser tout ce que représente aujourd'hui ce développement de l'homme